Je crois que nous qui aimons le Seigneur, nous sommes heureux et reconnaissants quand nous entendons des cantiques de louange. Nous sommes heureux de ce que nous ne chantons pas pour l'honneur d'un homme, mais pour l'honneur de notre Dieu, qui nous a aimés, qui s'est offert pour nous et qui a payé le prix sur la croix à Golgotha. Je pensais à moi ce matin, beaucoup sont allés en pèlerinage à Jérusalem, j'ai écouté les nouvelles. Et beaucoup ont porté des croix très lourdes. Et je pensais que c'est si merveilleux de ce que les vrais croyants, le Seigneur lui a porté la croix pour eux. C'est quelque chose de merveilleux. Il y en a qui imitent le Seigneur et veulent comme ça montrer quelque chose, mais c'est merveilleux de ce que le Seigneur a porté la croix pour nous et qu'il est allé pour nous et qu'il a payé le prix et il fut crucifié. Il y en a même qui, aujourd'hui, ont compassion de lui, de ce qu'il a dû souffrir. Mais nous sommes heureux de ce qu'il a dû, le faire, qu'il a payé le prix pour nous et qu'il nous a rachetés. Nous sommes heureux pour cela. Et nous sommes tellement reconnaissants parce qu'il a fait de grandes choses à nous et pour nous. Et ça peut chanter seulement ces choses des gens en qui il a fait de grandes choses. Ceux en qui il n'a pas encore produit ces choses ne peuvent pas chanter sa louange. Son salut. Mais c'est pas trop tard. Ça peut encore arriver. Dieu est encore à l'œuvre. Et je crois que de grandes choses encore peuvent arriver. Je crois que ce soir, si nous n'avons pas encore expérimenté le Seigneur, nous pouvons l'expérimenter ce soir. Il veut se révéler à chacun de nous. Avant de prier ensemble, je voudrais lire une parole de Dieu. De 2 Pierre, 1er chapitre. 2 Pierre, chapitre 1, dès le verset 10. Ici, ce Pierre ici dit ces paroles précieuses. Peut-être que nous devons nous lever pendant la lecture de la parole. De Pierre chapitre 1 verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous avec d'autant plus de soin à affermir votre appel et votre élection. Car si vous faites cela, vous ne tomberez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement et richement accordée. C'est pourquoi, le verset 12, je veillerai aussi à vous rappeler sans cesse ces choses, même si elles vous sont déjà connues et que vous êtes fermement ancrés dans la vérité et le vrai enseignement tel qu'il existe maintenant parmi vous. Mais je considère qu'il est de mon devoir, pendant que je demeure encore dans ce tabernacle du corps, de vous tenir éveillé par un tel souvenir. D'autant plus que je sais que le dépouillement de mon tabernacle corporel sera soudain, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a aussi annoncé. Mais je veillerai à ce qu'en tout temps, même après mon départ à la maison, vous puissiez vous rappeler ces choses. Prions. Seigneur Dieu, fidèle, nous te remercions de la profondeur de notre cœur, de ce qu'en tout temps, nous pouvons nous représenter ta parole sous nos yeux. Nous ne voulons pas oublier, toujours de nouveau, Seigneur, de mettre en lumière et de louer ce que tu as fait de grand aussi dans nos jours, Seigneur. Seigneur, car tu n'as pas agi dans le secret, mais dans le monde entier pouvait le voir et l'entendre et peut encore le voir et l'entendre, car tu travailles encore, tu es à l'œuvre encore. Nous louons ta grâce, louons ton nom. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es allé et tu as payé le prix pour nous. Ô Seigneur, nous voulons être prêts quand tu apparaîtras pour prendre les tiens auprès de toi. Aide ton peuple, aide-nous Seigneur, fais-nous grâce ce soir, aussi pendant ces jours. Seigneur, que ta parole puisse produire en nous les feux pour lesquels tu l'envoies, exécuter ta volonté. Nous te demandons, aide tous à écouter et aide aussi à annoncer ta parole. Loué et exalté et honneur soit et adoration soit à ton Saint nom de Jésus. Amen. Nous croyons que ce seront des jours que Dieu a fait pour que des hommes soient sauvés, soient délivrés, soient guéris et bénis. Que, après ces jours, avec reconnaissance, nous pourrons regarder en arrière ce que Dieu a fait. Nous souvenir de ce que Dieu a fait. Déjà, dans la foi, nous avons chanté, le Seigneur a fait de grandes choses en nous ici. Prosterné dans la poussière, nous le louons, nous l'adorons. Nous croyons qu'il l'a déjà fait beaucoup et déjà fait de grandes choses, beaucoup de choses. Et nous croyons qu'il fera encore plus et encore des choses plus grandes et qu'il peut le faire et qu'il le fera. Tout. Ceux qui étaient ici dans la prière un mercredi soir ont appris la requête qui a été exprimée que aussi qui a été apportée pour la première fois et pour la dernière fois. Vous avez entendu parler de la maladie de ce 20e siècle, le sida, inguérissable, sans espérance pour la personne qui l'a. Qui se rappelle ce mercredi soir ici, en cet endroit, alors que la requête avait été exprimée et le cas était en Tchécoslovaquie, sans espoir de guérison, en train de mourir, et malgré tout, Dieu nous a accordé la foi. Et hier, je crois que la lettre est venue, n'est-ce pas? Hier, la lettre nous est parvenue. Que Dieu, à 100%, a guéri cet homme du sida et a fait un miracle. Et nous en sommes de tout notre cœur reconnaissants. Quelqu'un qui devait mourir. Vous vous rappelez, frère Rousse, n'est-ce pas? Vous vous rappelez, à ce soir-là, mercredi soir, nous avons osé dans la foi prendre Dieu au mot. Celui qui a été exaucé, ça n'a pas d'importance. Nous pouvons dire qu'il nous a exaucés. Et pour cela, nous lui en sommes très reconnaissants. Vous savez que ça nous fait du bien. Quand on entend des témoignages et apprenons que Dieu a répondu. Donc cela m'a fait du bien. Moi, cela m'a fait du bien. Quand j'écoutais ça hier, j'étais heureux et reconnaissant. Pourquoi est-ce que nous ne devrions pas oser prendre Dieu de nouveau, prendre Dieu toujours de nouveau au mot, donc à sa parole, telle que c'est écrit, lui faire confiance ainsi, le croire et savoir que il a déjà accompli toutes choses. Aussi la guérison sur la croix à Golgotha. Nous allons aujourd'hui, n'est-ce pas, parler de ça. Mais ça peut être employé dans la pratique et être réellement manifesté dans la pratique et dans la réalité. Si nous pouvons croire que cela a eu déjà lieu pour nous personnellement et que personnellement cela est à nous, que personnellement nous sommes rachetés et guéris. Il faut que cela soit une chose très personnelle, qu'on accepte et qu'on reçoit dans la foi. Particulièrement, je voudrais, dès le commencement de ces réunions, adresser une parole à tous ceux pour lesquels des réunions de cette sorte sont nouvelles. Je peux vous garantir que ce sera seulement pour la première fois comme ça, nouveau pour vous. Pour la deuxième fois, ce sera déjà plus nouveau. Et pour la troisième fois, c'est déjà connu. Et toutes les autres fois, toutes les autres fois, n'est-ce pas, appartiendront déjà à notre vie spirituelle, n'est-ce pas? Donc, nous aussi, une fois, nous avons été pour la première fois dans une telle réunion, sommes venus et nous remercions Dieu de ce que il a conduit nos pieds, touché nos cœurs sous l'écoute de la parole de Dieu, de venir sous l'écoute de la parole de Dieu. Qui pour vous est reconnaissant de ce qu'une fois, il a été pour la première fois sous l'écoute de la vraie parole de Dieu? Qui? Amen. Amen. Gloire soit au Dieu vivant. Alléluia. Nous sommes ici à la maison. Donc, pas besoin de formalité. Nous avons besoin d'un mouvement du Saint-Esprit. Une vie nouvelle de Dieu, opérée par Dieu. Une nouvelle expérience avec Dieu dans ces jours. Mais nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis qui sont ici pour la première fois dans une telle réunion. Très particulièrement, nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Et nous vous demandons de passer là-dessus. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui sont nouveaux dans le déroulement d'une réunion, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous accordera de la clarté sur tout par sa grâce. Ensuite, nous voulons aussi tout de suite souligner cela, que si possible, avec l'aide de Dieu, tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous charge, nous rend la vie difficile, que nous puissions nous décharger de ça. L'apporter au Seigneur et saisir ces jours-là pour le faire, utiliser ces jours-là pour le faire, venir dans la présence de Dieu et l'expérimenter nouvellement. Nous voulons faire en sorte... Oh, je m'excuse. Je viens de voir notre bien-aimé frère de la République démocratique de l'Allemagne. Sois la bienvenue. Que Dieu te bénisse. Un homme, qu'est-ce qu'il avait eu? 16 ou bien 25 fractures. Et Dieu l'a guéri. Il y a des choses desquelles on pourrait presque dire ça n'existe pas. C'est pas possible. Et ça existe, ça existe. Car pour Dieu, toutes choses sont possibles. Toutes choses. Vraiment tout. Vraiment tout. Et nous voulons un peu laisser notre foi monter plus haut dans ces jours. Nous ne croyons pas en nous et à ce que nous pouvons faire. Nous croyons au Dieu vivant et il peut tout. Loué soit-il, soit son merveilleux nom. Si nous rendions tous ces témoignages, concernant les choses que Dieu a faites, si nous voulons les énumérer ici, il y aurait beaucoup à dire, à raconter parmi ceux qui savent ce que Dieu a fait dans cette génération. Les opinions ont l'air de s'être propagées que, avec le ministère de Frère Branham, tout a cessé. Moi, je suis d'une autre opinion. Je suis de cette opinion que, avec ce ministère puissant, Dieu a fait un nouveau commencement pour, dans cette génération, nous présenter Jésus-Christ comme le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cela de manière nouvelle, nous le montrer sous nos yeux. Car de faire des paroles, tous peuvent le faire. Mais quand Dieu confirme sa parole, alors il y a de la joie dans le cœur, de la joie à la maison, de la joie dans l'église, de la joie parmi le peuple de Dieu. Donc, nous voulons nous décharger, nous dépouiller de tout ce qui pourrait nous charger. Et faisons aussi en sorte que nous puissions ne pas nous affliger les uns les autres, nous charger avec certaines remarques ou bien paroles. Utilisons ce temps pour être dans la prière devant Dieu, dans le calme, et seulement dire quelque chose là où c'est nécessaire, comme Paul l'a exprimé, pour que nos paroles apportent une bénédiction à ceux qui l'entendent. Si nous sommes convaincus qu'ils les entendent, si nous sommes convaincus que ce que nous voulons dire à une personne lui apportera de la bénédiction, alors dis la chose de tout votre cœur. Mais si vous devez d'abord réfléchir pour savoir et que vous avez un petit doute que ça ne pourrait pas être le cas, alors ne dites rien. Car ce qui n'est pas fait par conviction dans la foi, c'est un péché. Et dans la foi, nous pouvons seulement dire ce qui est valable devant Dieu, a de la valeur devant Dieu, ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Alors nous voulons, avec la grâce de Dieu, nous diriger ainsi, et je sais que tous, nous avons besoin de la puissance de Dieu et aussi de sa sagesse pour mettre toutes ces choses en pratique. Et là aussi, là où ça manque encore, qu'il puisse nous accorder sa grâce et nous aider. Nous avons ces trois jours et que nous avons déjà consacré au Seigneur depuis longtemps pour qu'il puisse les faire devenir une bénédiction particulière pour nous et pour beaucoup d'autres. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'est passé ce vendredi de Pâques, il y a presque 2000 ans d'ici. Mais pas seulement de ce qui s'est passé, mais aussi, pas seulement cela, mais qu'est-ce qui est lié avec nous par ce grand événement? À quoi est-ce que ça servirait de savoir ce qui s'est passé là-bas sans savoir à quel point c'est lié avec nous, à notre personne? À quoi est-ce que ça servira? Nous voulons avoir la pleine participation à cette œuvre, alors que Dieu, dans sa grâce, puisse veiller sur nous, agir en nous et nous accorder sa grâce pour parler, sa grâce pour écouter, sa grâce pour croire, sa grâce pour expérimenter avec lui dans ces jours, ces choses. Et si nous fermerions nos yeux sous le coup de la parole et nous approfondissons profondément avec Dieu dans notre cœur et dans notre esprit pour vraiment comprendre et expérimenter ensuite ce qui a été accompli pour nous et le prendre dans notre vie de croyant, pour notre vie de croyant. Lisons plusieurs écritures. Nous commençons avec Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27. Ici, nous lisons tel verset 45. Verset 45. Matthieu 27, verset 45. Mais depuis la sixième heure, les ténèbres sont tombées sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Mais depuis la sixième heure, les ténèbres sont tombées sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Mais vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani, c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque certains de ceux qui se tenaient là, entendirent cela, ils dirent, « Il appelle Eli. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, la trempa dans du vinaigre et la posa sur un roseau et voulut faire boire Jésus. Mais les autres disaient, « Ne faites pas ça, voyons si Elia vient vraiment l'aider. » Mais Jésus poussa de nouveau un grand cri, puis il rendit l'esprit. Alors, le voile du temple se déchira en deux de haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et beaucoup de corps des saints qui s'étaient endormis ressuscitèrent. sortis de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à beaucoup. D'abord, jusqu'ici, peut-être cette parole. Puis-je demander que nous puissions encore nous lever pour la prière. Seigneur fidèle, nous avons lu cette parole et nous sommes ravis en esprit en ce jour d'autrefois dans lequel tout cela a eu lieu et s'est passé. Seigneur fidèle, d'un côté, nous sommes attristés de ce que cela avait été nécessaire et que tu devais entreprendre ce chemin qu'aucun autre pouvait entreprendre ou bien serait allé. Quel jour ça a été au Seigneur? Un jour qui est entré dans l'histoire du salut. Un jour de réconciliation de Dieu avec l'humanité. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses aujourd'hui nous rendre calmes, tranquilles dans ta présence. Que nous puissions nous recueillir et te voir, toi, en tant que le crucifié, en tant que celui qui était accroché entre le ciel et la terre, en celui qui a laissé couler sa dernière goutte de sang pour nous racheter. Ô bien-aimé agneau de Dieu, que cela te plaise d'utiliser ce jour, cette soirée, pour parler à nos cœurs et attendrir nos cœurs et les gagner. Surmonte-nous tous de ton amour divin. À toi, l'agneau précieux de Dieu qui s'est laissé immoler. À toi soit la louange, la gloire, l'honneur et l'adoration dans toute éternité. Amen. Nous voulons rester debout et encore chanter ce chœur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. De recevoir honneur, gloire et adoration. Tu es digne, ô Seigneur. Encore une fois, tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Ô Seigneur, de recevoir honneur et gloire et adoration. Louange et adoration, tu es digne, ô Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Celui qui a déjà lu les Écritures, les Saintes Écritures sait que Dieu avait créé l'homme à son image, et cela pour avoir communion avec lui, pour vivre éternellement, sans péché, sans maladie, sans mort. Dieu voulait que l'homme, dans une communion sans interruption, éternelle, et relation sans interruption avec lui, vive éternellement et reste éternellement et demeure éternellement. Vous savez que dans, selon Genèse 1, verset 27, Dieu l'Éternel a créé l'homme. L'homme était le couronnement de la création. La dernière chose, la plus grande chose, la chose la plus importante, merveilleuse. L'homme a été de Dieu placé sur toute chose pour régner sur tout ce qui était sur terre. Mais cette communion sans interruption n'a pas duré longtemps. Sur cette terre, cela s'est passé que l'ennemi est venu tromper les premiers hommes et ainsi les a apportés sous son influence et par cela sous sa domination pour régner sur eux. La communion avec Dieu, la relation avec Dieu a été brisée et la communion a pris fin avec Dieu. L'homme a été chassé du paradis et est allé son chemin sans Dieu, sans espérance, dans le désespoir. Les hommes sont partis, sont sortis du paradis. Et alors, Dieu, par des prophètes et des serviteurs, déjà dans l'Ancien Testament, a laissé prédire, a laissé annoncer que le Rédempteur, le Sauveur, viendra. La première annonce, le Seigneur lui-même l'a faite dans Genèse 3, verset 15, alors que là-bas, il parlait de la semence de la femme qui viendra pour briser la tête du serpent. De cette première promesse, toutes les autres promesses par la bouche des prophètes ont trouvé leur place. Et ainsi, une espérance vivante en ceux qui croient qu'ils étaient séparés de Dieu, malgré tout, ils avaient un espoir d'être de nouveau reliés avec lui, apportés en communion avec lui, car ils savaient que cet état de séparation ne peut pas être ce que Dieu veut avoir pour toute éternité. Il y a eu des hommes qui avaient été séparés de Dieu comme tous les autres, mais ils avaient été déterminés à de nouveau être liés et unis avec Dieu. Et ces hommes-là, pendant tout l'Ancien Testament, le temps de l'Ancien Testament, ces hommes-là ont, dans leur cœur, porté cette espérance vivante. Que la réconciliation avec Dieu viendra. Et nous allons venir dans les détails et venir à parler de ça. Dieu n'a jamais fait d'erreur. Tout se déroule selon son programme. C'est nous seulement, nous en tant qu'hommes, comme hommes, qui parfois ont des difficultés à nous insérer dans la volonté de Dieu et dans le plan de Dieu, à nous laisser insérer. Et justement, ces réunions que nous avons sont déterminées à ce que nous ne soyons pas en train d'écouter de la philosophie, ou bien faire de la philosophie, mais que nous puissions reconnaître que Dieu, par sa parole, parle avec nous. Et il parle avec nous de manière contraignante et que sa parole ne peut pas revenir à vide à lui et ne reviendra pas à vide à lui, mais elle produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Retenons dans le premier point cela, comme premier point cela. À l'intérieur de l'humanité, dans l'humanité, il y a eu depuis les jours d'Adam ceux qui exactement avaient su que cet état de séparation d'avec Dieu ne pouvait pas être la chose finale. C'était des hommes qui avaient une espérance vivante tournée vers le Dieu vivant en eux. Je peux vous dire aujourd'hui que Dieu ne les a pas déçus. Dieu a répondu à cette espérance qu'il avait lui-même mis en eux en raison de ses promesses. Il l'a aussi confirmé. Car comme déjà dit et mentionné, la première promesse vint de la bouche du Seigneur lui-même, que la semence de la femme viendra et brisera la tête du serpent ancien. Vu extérieurement, tous les hommes sont tombés sous cette influence ici sur cette terre. C'est peut-être raison que le Seigneur, du corps spirituel, devait venir dans un corps de chair pour ici, dans un corps de chair, comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, accomplir, donner la rédemption et ainsi s'attribuer le droit de nous racheter, car nous sommes une partie de cette terre vue terrestrement. Près de la terre, nous retournons à la terre. Mais dans ce corps terrestre, il y a quelque chose d'autre. Quelque chose de divin. Là, il y a l'âme. Et cette âme devait être sauvée, devait être retirée du domaine de l'influence de Satan pour être ravie et être ramenée dans le royaume de Dieu. Ici, nous l'avons lu. Mais depuis la sixième heure, les ténèbres sont tombées sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Matthieu 27, verset 45. Je pense dans ce contexte ici à deux écritures. La première, dans Genèse chapitre 1, verset 1. Et les ténèbres étaient sur le large déluge. Et la deuxième écriture, dans le prophète Ésaïe, chapitre 60, verset 2. Car les ténèbres couvre la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel brille comme un soleil et l'on voit sa gloire au-dessus de toi. Depuis la sixième heure, les ténèbres sont tombées sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, sur tout le pays. Qu'est-ce qui est écrit dans Isaïe, chapitre 9, verset 1, rapporté dans Matthieu 4, verset 16, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Dieu nous a, par sa grâce, révélé des chemins de lumière et de paix. Les ténèbres devaient venir pour montrer extérieurement à la sixième heure jusqu'à la neuvième heure que le monde entier est sous la puissance du malin, sans lumière, sans espérance, sans vie dans ce monde de ténèbres. Mais là, les choses ne sont pas restées dans cet état. Nous allons parler de cela le dimanche de la Pâque. Un nouveau jour a apparu. Un nouveau jour. Une nouvelle vie a apparu par la grâce de notre Dieu. Mais avant que ce nouveau commencement puisse être relevé, nous devons rencontrer la fin de la vieille vie et voir où est-ce que Dieu a mis fin à la vieille vie pour reconnaître ensuite où est-ce qu'il a commencé la nouvelle vie. Dieu a un point où la fin a été réglée, apporté à la vieille vie, et Dieu a un point où, à la nouvelle vie, un commencement a été fait. Croyez-moi, le vieux homme, la vieille chose, a été crucifié sur la croix à Golgotha. Et par cela, sa fin a été apportée, a été faite. Nous sommes crucifiés avec Christ, nous avons été crucifiés avec lui. Et nous sommes morts avec lui. Et si cela dans notre vie ne peut pas devenir vrai, alors cela ne pourra pas non plus devenir vrai que nous sommes ressuscités avec lui pour marcher en nouveauté de vie. Celui, comme Paul peut dire de son expérience personnelle, pas citer des versets bibliques, mais d'une expérience personnelle, réelle, faite avec Dieu et avec véracité, avec un cœur sincère, honnête, puisse dire, je suis crucifié avec Christ. Celui-là ne pourra pas non plus dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais celui qui, par la grâce de Dieu, peut dire, peut avoir expérimenté ce qui est accompli, c'est-à-dire qu'il est crucifié et mort avec Christ. C'est celui-là seulement qui pourra rendre ce témoignage. Ce n'est plus moi qui vis alors, désormais, mais c'est Christ qui vit en moi. Avons-nous tous ce désir dans notre cœur sincère pendant ces jours-là, concrètement, d'expérimenter cela avec Dieu dans ces deux jours, que nous puissions rencontrer notre fin, expérimenter notre fin et expérimenter aussi notre nouveau commencement. Est-ce que cela ne serait pas merveilleux? Que nous puissions, dans la foi, dans nos cœurs, repasser cela et faire confiance au Seigneur qu'il est capable de le créer en nous, de l'opérer en nous. Combien peuvent croire que cela pourrait être le week-end dans lequel, pendant ces trois jours, dans lesquels Dieu fera de grandes choses, opérera de grandes choses en nous tous, sera capable de le faire. Mais il y a une chose que nous devons faire, mes bien-aimés. Alors, nous devons, de tout notre cœur, suivre l'œuvre de Dieu, suivre les choses de Dieu, suivre la parole. Nous devons avoir un amen, une réception dans notre cœur. Nous pouvons pouvoir dire amen à cela, accepter, croire chaque parole qui nous a été transmise, léguée et dans ce contexte, est considérée. Vous savez, les premiers hommes ont ressenti quelque chose de terrible en dehors de nous qui auparavant n'avaient jamais été dans cette communion qu'ils ont eue, nous qui n'avons jamais connu cette communion qu'ils ont eue avant la chute de l'homme. Nous, automatiquement, nous sommes nés, séparés de Dieu, nés dans le péché, dans ce monde, venus ainsi. Mais Dieu a en nous mis un désir ardent. C'est lui qui a mis ce désir en nous, envers lui, envers sa parole et bien sûr, envers sa grâce. À sa grâce, à sa parole, à lui. Mais les premiers hommes, pour les premiers hommes, c'était un peu différent. Au temps du soir, dans la fraîcheur du soir, le Seigneur lui-même venait dans le jardin d'Éden pour personnellement parler avec les hommes, avec eux, et avoir communion avec eux. Je peux m'imaginer. C'est ainsi que ce sera de nouveau. Quand nous quitterons cette terre et qu'ensuite nous serons pour toujours auprès du Seigneur. Mais imaginez-vous comment est-ce que les premiers hommes ressentiront, ont dû ressentir quand subitement il leur a été dit sortez. Et la porte du paradis a été fermée et l'ange avec l'épée se tenait là devant la porte à l'entrée. Plus d'accès à l'arbre de la vie, plus de communion avec le Seigneur. Je vous dis, celui qui est croyant depuis des années, depuis longtemps, et peut-être qu'en partie devait vivre ce que cela veut dire de manière passagère, être détaché d'une communion intime avec Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Un tel homme va dire à haute voix ou bien à voix basse, ma vie n'a plus de sens. Il y a des hommes qui sont créés pour vivre avec Dieu, déterminés à vivre en communion avec Dieu. Et sans cette communion, ils ne peuvent pas vivre. Et c'est ainsi que cela devrait être avec nous tous. Le pont a été placé. Et les dégâts ont été réparés, je le crois, de tout mon cœur. Je ne vois pas je ne vais pas au paradis pour voir encore l'ange avec l'épée devant la porte, sans accès à l'arbre de la vie. Non. Je vois celui qui mourut à Golgotha et qui a dit immortellement, je te dis, aujourd'hui encore, tu seras avec moi au paradis. l'accès est libre au moment où l'épée a pénétré le côté de notre Seigneur et que le sang a coulé et qu'il a dit, c'est accompli et a rendu son esprit. C'est à ce moment-là que le chemin fut inauguré, frayé. La réconciliation, la rédemption, la relation avec Dieu a été restituée. C'est ainsi que cette parole de l'Écriture s'est accomplie. De 2 Corinthiens 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, est l'œuvre de Dieu. Ensuite, suit le verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Toi et moi, dans nos cœurs, nous avons un désir à avoir communion avec Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Et je peux vous assurer que nous n'aurions pas pu en nous avoir ce désir si cette communion avec Dieu-là n'avait pas été prévue pour nous. Tout ce que Dieu fait est bien fait. Il accorde le désir et il répond au désir. Il donne des promesses et il les accomplit. Il est un Dieu juste. Il met en nous le vouloir et le faire. Et il a dû accomplir sa parole qu'il avait dit, qu'il avait prononcée. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il n'a pas pu faire en sorte que la parole brisée ne soit pas brisée. Elle a été transgressée. Et c'est ainsi que les hommes sont allés de l'autre côté. Mais il a pu faire une chose. Il a pu ramener l'homme de la chute, pas par des arguments, mais par un engagement personnel en faveur de nous à Golgotha. Et bien, mes frères et sœurs, là nous venons au point. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous avions péché personnellement, nous avions péché. Et par cela, nous sommes devenus coupables devant Dieu. Il fallait que Dieu, le Seigneur, vienne personnellement pour nous ramener à lui de la chute. Il avait annoncé en parole et en promesse. Mais il devait le faire lui-même. Ce qui avait été annoncé par les prophètes, il devait lui-même venir l'accomplir. Et il est venu et il a accompli. Et cela pour toi et pour moi. Combien peuvent aujourd'hui croire que la réconciliation qui a eu lieu il y a presque 2000 années et que cette réconciliation t'appartient et m'appartient. Pouvez-vous le croire? Elle est notre héritage. Elle nous appartient. Elle nous a été donnée. Mais si nous croyons vraiment cela, nous pouvons devoir aussi remercier le Seigneur. L'incrédulité regarde les circonstances et dit, mais tu n'es pas encore comme tu devrais être. Mais ça, nous pourrons encore même le dire dans la dernière semaine avant l'enlèvement, si nous sommes sincères et honnêtes. Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui, ce soir. La foi est la victoire qui a triomphé du monde, telle que les saints de l'Ancien Testament et les croyants de l'Ancien Testament, les croyants et les saints, en eux portaient déjà cette espérance vivante, sans voir les promesses s'accomplir. Nous portons les promesses en nous et nous les verrons s'accomplir. Dans l'Épître aux Hébreux, il est écrit, ils ne devaient pas atteindre la perfection céleste sans nous. Mais quand la totalité des nations seront entrées, alors Jésus-Christ reviendra. Et il y aura une rencontre avec tous ceux qui ont attendu, qui ont cru, qui avaient cette expérience vivante en eux, de tout l'Ancien Testament, et avec Abraham, Isaac et Jacob, avec tous ceux qui ont mis leur espérance en eux, pas en eux-mêmes, mais en Dieu, pas en eux-mêmes, en Dieu. et ont mis leur confiance et ils ne seront pas confus. Ils verront la gloire de Dieu aussi. Dans Luc 23, il y a aussi plusieurs paroles auxquelles je veux me référer. Luc, verset 23, et chapitre 23, dès le verset 47. Or, le centurion, voyant ce qui était arrivé, loua Dieu et dit, « Cet homme a vraiment été un juste. » Toute la foule rassemblée à ce spectacle et voyant tout ce qui s'était passé, se frappa la poitrine et s'en retourna chez elle. Seulement d'abord, jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu. Ici, une expression est utilisée qui ne me plaît pas du tout. Ici, il est écrit « Toute la foule rassemblée à ce spectacle ». Moi, je voudrais plutôt dire « scène », pas « spectacle ». À cette scène, c'était l'endroit dans lequel la plus grande bataille de tous les temps devait être décidée. Un lieu de combat, de bataille. Mais il y avait des gens qui étaient venus pour se moquer et ils ne savaient pas de quoi il s'agissait. Les gens croyaient de toutes les manières, ils ne croyaient de toutes les manières pas, ils ne croyaient pas. Et ceux qui avaient mis leur espérance dans le Messie disaient, nous avons espéré qu'il sauverait Israël, délivrerait. Qui comprenait autrefois comme le prophète Esaïe l'a formulé, oui, qui parmi ses contemporains autrefois a considéré qu'il était retranché de la terre des vivants à cause de l'iniquité de mon peuple, le châtiment l'a atteint. Qui a compris cela autrefois? Ici, nous lisons Luc 23, 48, « Toute la foule rassemblée à ce spectacle. » Là-bas, la croix, sur ce sommet de Golgotha, cette colline, sur le lieu du crâne, et les spectateurs, pour s'amuser, sont tous rassemblés, ils regardent. Comment est-ce que notre Seigneur, comment on lui crache dessus, on se moque de lui, on le frappe. Et avant tout cela, ses vêtements lui ont été ôtés et on lui a mis un manteau de pourpre. Il devrait être habillé comme un roi et beaucoup se sont prosternés devant lui pour se moquer de lui. Ils lui ont mis une couronne d'épines parce qu'on disait ou bien il disait qu'il était le roi des Juifs. Un spectacle comme cela n'a jamais existé de cette manière dans toute l'histoire de l'humanité. Et comme cela n'existera plus dans toute l'humanité. Pour nous, ce n'est pas un spectacle, car nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes des participants. Nous sommes participants. C'était un combat. Un lieu de combat. Ici, les principautés des ténèbres devaient être vaincues. Extérieurement, cela semblait comme si Jésus avait été vaincu. Comme si la chose qui s'était proposée avait échoué. Les siens l'ont abandonné aussi. Il était resté seul là-bas, accroché entre le ciel et la terre. Et malgré tout, pas seul. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais bien-aimés, croyons ce soir de tout notre cœur que c'était pas seulement un spectacle, mais l'endroit de la décision divine, de la victoire divine sur les principautés des ténèbres de Satan ici sur cette terre. À quoi est-ce que cela aurait pu nous servir si le Seigneur, là-bas, dans l'air, avait là-bas vaincu les principautés des ténèbres? Parce que c'est ici sur terre que nous devons les surmonter. C'est peut-être quelqu'un qui il les a rencontrés et les a vaincus pour nous. Ici sur cette terre, où nous sommes. Et je crois ce que les Écritures nous disent là-dessus. Et ça, nous voulons maintenant le lire. Ce sont des paroles précieuses de Dieu. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2. À partir du verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous aussi, qui étiez autrefois morts dans vos transgressions, Colossiens 2, verset 13, et dans l'incirconcision de votre chair, Dieu vous a fait vivre avec lui en nous pardonnant par grâce toutes nos transgressions, en ce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Le lien qui nous était imposé par ses statuts, qui était une pierre d'achoppement pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Puis, ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées au carcan. Triomphant d'elle en lui par la croix. Alléluia. Cela reste éternellement vrai. Je le répète encore une fois, extérieurement, nous voyons là-bas notre bien-aimé Seigneur, vu tristement, sans force, accroché sur la croix. Mais là, c'est la victoire de Dieu qui a été manifestée telle que nous venons de le lire dans Colossiens. Ce n'était pas le combat avec des paroles terrestres. C'était le prix qui a été payé par lequel tout fut effacé. Notre Seigneur a toujours de nouveau rencontré l'ennemi avec les paroles de l'Écriture, avec l'Écriture. Mais ici, il s'agissait de plus qu'une rencontre avec les Écritures. Ici, il s'agissait de la délivrance, de la rédemption et du rachat que l'homme de nouveau puisse être la possession de Dieu, appartenir à Dieu et qu'il puisse devenir une possession de Dieu. Mais bien aimé, chaque vendredi, ce vendredi là d'autrefois était un vendredi extraordinaire, un jour extraordinaire, particulier. Mais laissez-moi vous montrer certaines choses. La naissance de Jésus était déjà extraordinaire. La vie de Jésus était extraordinaire. Le ministère de Jésus était extraordinaire. Les miracles qu'il faisait étaient extraordinaires. Aussi ses souffrances et sa mort étaient extraordinaires. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune situation qui pourrait être comparable à cela. J'ai rencontré quelqu'un lors d'un vol dernièrement. Et on me disait, on peut comparer Christ aux autres fondateurs de religion. Oh, je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive dans de tels moments. Mon sauveur n'est pas quelqu'un de quelconque qu'on pourrait comparer à un homme, à un autre homme. Mon sauveur est Dieu manifesté en forme humaine. Notre Sauveur est le Seigneur de tous les seigneurs et le Roi de tous les rois. Le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais les hommes le voient dans sa faiblesse, dans ses faiblesses. Quand on le compare à un homme, alors les autres hommes sont repartis avec triomphe, n'est-ce pas? Ont quitté la terre avec des fleurs. On a seulement besoin de lire l'histoire de ces gens. Mais tel que notre Seigneur mourut, personne n'est mort de cette manière. Personne. Mais laissez-moi vous dire une chose. Sa mort a servi à quelque chose. Il y aura un fruit de l'angoisse de son âme. J'ose même croire. Une troupe que aucun homme pourra compter. Bien sûr qu'on peut en nombre dire que ce sont des milliards. Mais si on verrait 100 000 personnes et que je poserais la question, comptez-les-moi s'il vous plaît, alors vous devriez dire, c'est pas possible que je compte là maintenant 100 000 personnes. Mais si la Bible parle d'une troupe qu'on ne peut compter, alors cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas la compter en nombre, mais je crois que tel que l'ennemi a emporté beaucoup avec lui lorsqu'il a fait sa rébellion dans le ciel, Christ en emportera au moins autant au ciel, afin que la totalité soit pleine, le nom soit plein, et que la perfection divine soit garantie pour l'éternité. Ne vous inquiétez pas. Dieu ne s'est jamais laissé moquer et se laissera jamais moquer. Aussi dans ces jours, si cela semble ainsi que les véritables croyants n'ont pas de victoire, ils vivent la moquerie, sont méprisés, on pourrait même cracher sur eux et les rejeter. Et on pourrait être affligé et demander au Seigneur combien de temps cela devrait durer ainsi. Pour Dieu, pour toutes choses, il y a un temps. Le temps de l'humiliation et le temps d'être élevé, le temps des épreuves et des détresses, le temps de la joie et de la victoire. Dieu est capable de changer tout au temps convenable, faire tout ce qu'il a promis. Ce soir, il s'agira pour nous de cette réalité divine que Christ, sur cette grande place de, sur cette scène, sur cette place décisive sur cette terre où le compte des principautés des ténèbres a été réglé une fois pour toutes, il les a vaincus et que Satan n'a aucun droit sur nous, aucun. Nous sommes rachetés, sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Pour cela, il s'est porté garant, notre Seigneur, alors qu'il a donné sa vie sur la croix à Golgotha. Il s'est porté garant pour tout ça. Aussi, la question des péchés, des fautes est réglée. Aujourd'hui, on pose toujours la question, on veut toujours savoir qui a la faute, qui est coupable, qui a la faute. Je vais encore insister, encore une fois. La question de la faute a été réglée. Car tous, nous sommes coupables. Coupables, qui est coupable? Tous. Même si on se dit avoir raison et ne pas être coupable, notre justice est comme un vêtement souillé, c'est écrit dans Isaïe et aussi dans Isaïe. Venez, nous voulons parler ensemble. Et si vos péchés sont comme le croix-mazi, ils deviendront blancs comme la neige. C'est à Golgotha que pour toi et pour moi, la garantie à 100% a été prouvée. Et celui qui ne croit pas cela mourra dans ses péchés. Mais il ne mourra pas dans ses péchés parce qu'il a péché. Il mourra dans ses péchés parce qu'il n'a pas cru qu'il a été sauvé et qu'il a reçu de Dieu le pardon par le sacrifice de Golgotha. C'est là le point. Parce que en ce cas-là, on n'a pas accepté pour soi, on n'aurait pas accepté pour soi comme entrée en vigueur l'offre de grâce de Dieu. Ici, il est écrit, en nous pardonnant par grâce toutes nos transgressions. Alléluia. Toutes nos transgressions. En nous ayant pardonné. Pas seulement quelques-unes transgressions, pas seulement beaucoup ou bien certaines que nous avons cherchées. Non, tous. Et en nous ayant pardonné par grâce toutes. Et pour moi, toutes, c'est toutes. En nous ayant pardonné par grâce toutes nos transgressions. Est-ce que tu peux le croire ce soir? Croire ce soir qu'il n'y a plus rien qui est resté, rien qu'il devrait encore pardonner. Crois comme la des Écritures. Et tu expérimenteras que toutes tes transgressions par la grâce de Dieu ont été pardonnées, sont pardonnées. La main était très faible. Mais bien-aimés, si nous voulons nous réjouir en Dieu, nous devons croire comme l'a dit les Écritures. Et celui qui ne peut pas croire comme l'a dit les Écritures, il rend Dieu menteur. Avez-vous lu cela dans 1 Jean? Celui qui ne croit pas Dieu le rend menteur, le fait menteur, ce soir. Nous sommes ici pour croire Dieu, pour croire Dieu, pour croire que là-bas à Golgotha, une bataille, un triomphe des principautés des ténèbres a eu lieu, une rançon pour les fautes, une expiation des fautes, des péchés, une réconciliation de Dieu avec l'humanité a eu lieu. Vous pouvez croire ça ce soir? Une réconciliation avec Dieu, toute l'humanité. Alors oubliez vos fautes et vos péchés parce que Dieu les a jetés dans la mer de l'oubli. Oubliez. Nous faisons toujours nous rappeler de ce que nous avons fait. Et nous sommes affligés. Et c'est ainsi que nous ne pouvons pas venir à la joie, passer à la joie que nous devrions avoir en notre Dieu, que nous pouvons avoir en lui. Ici, il est écrit encore plus. En ce qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, le lien qui nous était imposé par ses statuts, qui était une pierre d'achoppement pour notre salut, et qu'il l'a fait disparaître en le clouant à la croix. Vous savez que lorsqu'il y a une dette et que l'huissier vient à la maison, alors, n'est-ce pas, on sait ce qui se passe. Il y aura une saisie, puis une confiscation. Tout cela n'est plus nécessaire, n'est plus même possible, car l'huissier peut rester à la maison. La dette est payée. Il n'y a plus rien à confisquer ou à saisir, car le Seigneur a tout porté sur lui, s'est chargé de tout. Et il l'a porté sur la croix. Et si lui, il l'a porté sur la croix, alors toi, tu n'as plus, moi et toi, tu n'as plus besoin de le porter. De porter quoi que ce soit. Loué et gloire soit à notre Dieu. Je me souhaite que nous puissions dans ces jours avoir la possibilité de prêcher dans la même fraîcheur l'évangile tel que nos frères, les apôtres, au commencement, l'avaient. Tous ceux qui ont vu tout cela et qui étaient des témoins oculaires et auriculaires de ce qui s'était passé autrefois. Et qui veut me disputer cela, que le Seigneur le fera encore une fois. Que nous aussi nous serons témoins oculaires et auriculaires de la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous croyons qu'il est ressuscité et que nous sommes ressuscités avec lui. Nous avons la grâce de vivre avec lui. Maintenant, écoutez encore cela. Encore. Et il a fait disparaître l'acte des fautes dont les ordonnances nous condamnaient en le clouant à la croix. Pas seulement qu'il fut frappé à la croix. Cet acte des fautes qui était contre nous à cause des interdictions, des commandements, nous étions coupables. À cause des ordonnances, nous étions coupables. Et le Seigneur a pris cet acte des fautes avec lui sur la croix. Et là-bas, cet acte de faute a été cloué avec notre Sauveur. Pas jeté dans une poubelle. L'acte de faute avec celui qui a porté nos fautes et qui pour nous a été fait péché. Avec lui, cet acte de faute a été cloué et frappé. Et vous savez, ce n'était pas seulement les clous, c'était l'amour de Dieu pour nous qui l'a retenu là-bas sur la croix. Pas seulement les clous, mais c'est l'amour de Dieu qui l'a retenu. Et tout le reste qui a appartenu à cela. Écoutons ce qui suit et appartient à tout cela. Puis, ayant complètement désarmé les puissances et les autorités, il les a publiquement exposées au carcan, triomphant d'elles en lui par la croix. Tous ceux qui passaient, l'ont remarqué, l'ont vu, l'ont reconnu. C'était un combat spirituel, une bataille spirituelle avec les princes de ce monde et avec tous ces légions. Mais nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur a combattu avec ses principautés des ténèbres. Mais pas seulement ça. Il les a complètement désarmé. Vous savez, la chose n'est pas finie tant que le combat n'est pas fini, tant que l'adversaire est armé, tant que l'ennemi. C'est seulement quand l'ennemi lève les mains, jette ses armes, et c'est ce qui s'est passé à Golgotha. Il a été l'ennemi a été désarmé complètement. J'ai à le croire parce que la Bible dit, je n'ai pas besoin de m'efforcer à croire cela. Cela sera manifesté. Le jour arrive dans lequel même le dernier ennemi qui est la mort se tiendra devant nous tous comme vaincu. Aujourd'hui, Dieu permet encore que l'homme passe de l'autre côté par la mort. Mais il n'a pas part à nous et nous n'avons pas part à lui. Nous sommes, selon la parole de l'Écriture, passés de la mort à la vie, déjà maintenant. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors donc, le Seigneur a vaincu les principautés des ténèbres. Il les a désarmés complètement, comme c'est écrit ici. Il les a publiquement exposés au carcan. Et encore une fois, qui l'a vu extérieurement avec ses yeux naturels? C'était un combat spirituel. Une bataille puissante. Satan avait reçu tout droit sur l'humanité parce que Ève avait prêté l'oreille à lui et Adam avait écouté et tous étaient sous son influence et soumis à lui et sous sa puissance. Maintenant, le Seigneur, le propriétaire originel, il a payé le prix. Il est venu sur cette terre pour nous racheter, pour nous délivrer, pour nous sauver, pour nous accorder le salut et la grâce, pour nous ramener en communion avec lui-même. C'est triste comme ce jour, d'un côté, est pour nous que notre Seigneur et Rédempteur a dû aller ce chemin si difficile, plein de probes, qu'aucun n'était allé, a suivi. Malgré tout, nous le voyons. Nous voyons en cela son amour pour nous, sa miséricorde pour nous, qui nous inclut tous. Qui peut expliquer cela avec des paroles? Là-bas, alors qu'il avait prononcé la malédiction sur le sol, te produira des ronces et des épines, etc. Et voilà celui-là, ici, le même, qui visiblement porte la couronne d'épines sur sa tête. Qui visiblement ici, sur sa propre tête, porte la malédiction qu'il a prononcée lui-même dans le jardin d'Éden. Sur sa tête. Avec cela, il est allé sur la croix. Et pour nous, il a été fait péché. Pour que, en lui, nous devenions la justice de Dieu et nous participions à la justice de Dieu. Oui, toute la malédiction est tombée sur lui. Car elle est écrite, maudit est quiconque est pendu au bois. Il fut pendu au bois. Mais toi et moi, nous étions en lui. Aux yeux de Dieu, nous avions été en Christ. Et vraiment, avant même la fondation du monde, déterminé à croire et prendre part à cette œuvre du salut de notre Dieu. Aussi vrai que notre Seigneur était le Rédempteur. Aussi certain, nous avons été sauvés. Aussi vrai qu'il fut sauveur, nous sommes sauvés. Car le Sauveur nous a apporté le salut, la rédemption. Il y a encore une parole que je voudrais lire ici, dans l'Épître aux Philippiens, le chapitre 2, Philippiens, chapitre 2, dès le verset 7. Il s'est même dépouillé lui-même, prenant sur lui la forme d'un serviteur, entrant entièrement dans la nature humaine et étant trouvé dans son corps comme un homme. Il s'est humilié et abaissé lui-même et fut obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a aussi élevé au-dessus de toute mesure et lui a donné le nom qui est supérieur à tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou de tous ceux qui sont dans les cieux, sur la terre et sous la terre fléchissent. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ici, il est parlé de son élévation. Jésus-Christ disait autrefois, Jésus disait, quand je serai élevé de la terre, alors j'attirerai tous les enfants de Dieu à moi. Là-bas, à Golgotha, il fut un peu comme ça élevé par l'opprobre et la honte, mais dans un autre sens, mais après avoir vaincu et être monté au ciel dans la gloire, il a été élevé au-dessus de toutes choses et il a reçu un nom qui est supérieur à tous les autres noms. Je dois encore lire une parole de l'Épître aux Hébreux, le chapitre 7, où la même parole est écrite. Hébreux, chapitre 7, verset 26. Oui, peut-être même dès le verset 22, je m'excuse. Dès le verset 22, Hébreux 7. En conséquence, Jésus est devenu d'autant plus le garant, d'une meilleure alliance. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par sa médiation, car il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Maintenant arrive le verset 26. Car il nous fallait aussi avoir un tel souverain sacrificateur qui est saint, irréprochable, sans tache, séparé des pécheurs et élevé au-dessus des cieux. Nous pourrions lire encore beaucoup. Nous voulons résumer. Ce jour était un jour très particulier dans l'histoire de l'humanité. Il était le point culminant dans l'histoire du salut. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce jour, et ne l'ont pas vu. Mais ils se sont endormis dans l'espérance, comme Job l'a mieux exprimé. Il a dit, même si ma chair est consumée, je verrai Dieu dans mon corps. Ils le savaient parce qu'ils avaient une espérance vivante dans leur cœur qu'ils ont porté. Et ils pouvaient même dire comme Job, « Je sais que mon Rédempteur vit. » Et comme dernier à la fin des jours, j'apparaîtrai sur terre. Oui, il vint comme l'accomplissement de tout ce qui avait été annoncé à l'avance. Mais bien-aimés, il est ton espérance et mon espérance. Ton sauveur et mon sauveur. C'est en lui que nous avons le pardon, la réconciliation, le salut et la grâce. Croyons pas que Dieu fait une œuvre à moitié. Non, ce que Dieu fait est toujours parfait. Et nous croyons en une rédemption parfaite, une réconciliation parfaite, un salut parfait par la grâce de notre Dieu. Un jour extraordinaire fut ce jour d'autrefois à Golgotha et aujourd'hui cela peut être ton jour et mon jour extraordinaire particulier. Si nous faisons l'expérience de ce que Dieu, en ce jour extraordinaire autrefois, nous a préparé et a accompli pour nous, alors nous pourrions, dans la louange et dans des cris de joie, quitter ce lieu et donner gloire à notre Dieu. Qui veut croire aujourd'hui que tout cela est vrai, que cela s'est vraiment accompli? une grande scène, une place. C'était un combat de décision, un combat décisif. Et je suis reconnaissant. Je connais qu'un seul vainqueur. Aucun compromis. Non, s'il vous plaît, pas. Pas de compromis. Il n'y a qu'un seul vainqueur. C'est le vainqueur de Golgotha. Pas de négociation, pas de comparaison. Mais, pas d'entente, mais désarmement complet, victoire complète, salut complet, grâce complète. Croyez cela ce soir de tout votre cœur. Beaucoup ont l'impression, ou bien statistique, ou bien alors ils ont l'impression que une comparaison aurait été, ou bien qu'un contrat aurait été fait. Non, jamais, jamais. Il a désarmé complètement. Il les a dépouillés. Et en public, il les a exposés au carcan. C'est ainsi que c'est écrit. Au carcan. Donc, pas de comparaison, mais une rédemption à la manière divine, une délivrance avec un grand triomphe, avec une victoire glorieuse. Et cette victoire de Golgotha, dans cette victoire de Golgotha, nous voulons entrer dans la foi. Et aussi cette pensée, je voulais encore l'exprimer pour finir. Alors que notre Seigneur mourut, tout semblait perdu et sans espérance, sans espoir. Et peut-être que tu penserais, pour moi aussi, souvent c'est la même chose, ça semble que tout est perdu. Donc prends l'exemple de notre Seigneur, là où, comme le faible, comme ce qui avait été méprisé, maltraité, alors qu'il fut vu comme ça, il semblait comme ça, comme sans espoir, tout était perdu. C'est justement là que Dieu a manifesté la plus grande victoire de tous les temps pour toi et pour moi. Alors, si nous sommes la semence d'Abraham, alors nous espérons là où il n'y a plus d'espoir et croyons et restons attachés à la parole de la promesse divine et ainsi donnons gloire à Dieu. Croyons là où il n'y a plus d'espoir. Dieu confirme sa parole en tant que vrai en nous et par nous. Je suis reconnaissant pour chaque parole et pour ce jour remarquable, unique dans toute l'histoire du salut, de ce que l'histoire de l'humanité, de ce que son impact atteindra notre achèvement, notre perfection. Tout ce que je ne rappellera à eux, ce même salut est valable pour eux et les mêmes promesses de Dieu sont valables à tous ceux qu'il appellera. Est-ce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui il y en a ici parmi nous qui n'ont pas encore expérimenté cela, ce salut en Christ, donc c'est votre, c'est le meilleur soir ce soir, c'est votre occasion que ce jour de vendredi de Pâques ne soit pas un jour de fête, mais un jour d'expérience personnelle avec ton Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne fêtons pas ce qui s'est passé à Golgotha, nous expérimentons ce qui s'est passé là-bas. C'est ça la grande différence. Tout le monde dit chrétien, fête. Mais les vrais croyants expérimentent l'œuvre accomplie de la rédemption. Que Dieu nous l'accorde ce soir, dans la foi et dans la confiance. Loué soit son saint nom. Amen. Nous nous levons pour la prière. Nous l'avons souligné que ce jour était un jour particulier, un jour unique, un grand jour dans l'histoire du salut. Et aujourd'hui, ce grand jour, ce jour unique, cette expérience unique du salut, de la grâce, du salut, de la délivrance, que ce jour devienne aujourd'hui pour beaucoup une expérience personnelle. J'ai cette demande devant la face de Dieu. Si plusieurs sont ici qui n'ont pas encore consciemment accepté le Sauveur, prenez vos décisions maintenant. Le Seigneur vous appelle. Il vous rappelle à l'ordre. Il vous exhorte, il veut vous attirer à lui. Il veut vous accorder le pardon et le salut. car le pardon et le salut est là pour vous. Pendant que toutes les têtes sont courbées et que tous les yeux sont fermés et que nous nous recueillons dans la prière devant Dieu, je voudrais demander, est-ce qu'il y aurait certaines personnes ici qui souhaitent la prière et qui ont le courage de lever rapidement les mains et de les rabaisser? Il y en a quelques-uns? Un, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous voulons encore une fois chanter tel que je suis, sans rien de moi. Et ton, et ta voix qui m'appelle, ton sang me lave de tout péché, ô Dieu, ô Agneau de Dieu, je viens. Père céleste, tu as vu les cœurs et les mains, tu connais aussi ceux qui n'avaient pas le courage de lever leurs mains. Tu leur accordes la décision dans le cœur. Accorde-leur cette décision dans le cœur. Ô Sauveur, que ceci devienne un grand jour pour nous, pour chacun de nous. Que Golgotha nouvellement nous soit montré sous nos yeux et révélé, que ce ne soit pas seulement que nous chantons glorieux Golgotha, glorieux Golgotha, mais que nous entrons en nous-mêmes et comprendre ce qui s'est passé pour nous là-bas, pour que maintenant cela puisse arriver aussi à nous, accomplir en nous, pas seulement accompli là-bas, mais ici en nous, pour que cela soit manifesté dans notre vie, bien-aimé Sauveur, que dans toute notre faiblesse, tu puisses manifester ta victoire, la victoire sur toute la puissance de Satan, sur tout, ô Dieu. La victoire de Golgotha. Bien-aimé Sauveur, je te remercie de ce que tu parles avec nous ainsi et que tu nous révèles ta parole et ta volonté. Tu parles à nos cœurs, ô Seigneur, et tu nous rends capables de te croire, de te servir. Tu mets en nous le vouloir de te servir, de te croire et de te suivre. Je te demande encore une fois que tu puisses ôter toute hésitation, toute incrédulité, tout ce qui nous retient, nous paralyse, ô Dieu, pour que nous puissions nous élever dans la foi et de tout notre cœur te remercier, te louer, car en vérité, tu as fait de grandes choses. Tes souffrances et ta mort ont servi à quelque chose. Je te remercie pour cela. Le fruit de l'angoisse de ton âme est grand. Ici, il y a une partie seulement de ta troupe rachetée par le sang. Nous nous tenons devant ta sainte face pour te louer, pour la rédemption inouïe, unique, pour le salut unique, pour la grâce et le pardon, Seigneur. Ô bien-aimé Sauveur, nous étions séparés sans Dieu et sans espérance. Mais maintenant, réconcilié avec Dieu et uni avec Dieu, lié avec Dieu. Alléluia, alléluia. Louange et honneur, gloire et adoration à ton nom. Que tout le monde entier puisse l'entendre, que nous nous réjouissons en notre Dieu, car nous sommes rachetés. Rachetés, je le suis, je peux le louer et le dire avec joie. Seigneur, nous n'avons pas honte de l'évangile de Jésus-Christ. Bien-aimé Sauveur, conduis, montre-nous sous nos yeux et écris-le sur nos cœurs. L'acte de faute est effacé et a disparu, cloué sur la croix, car ton sang a coulé là-dessus. Tout est pardonné. La réconciliation, la grâce et le salut. Le jour du salut a apparu pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Le jour du salut. Aujourd'hui, peut apparaître pour toi. Oh, bien de mes frères et sœurs, accepte-le dans la foi. Car le Seigneur te parle très personnellement. Il s'adresse à toi. Alléluia. Honneur, gloire et adoration soit à notre Dieu. Alléluia. Amen. La bande originale s'est arrêtée ici.